I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Camus. Salut Nico.
Salut William, salut à tous.
Comment ça va déjà?
Ouais, très bien, écoute. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur ce podcast.
Ça faisait super longtemps. Désolé pour cette absence d'ailleurs. On va commencer par demander pardon. Et de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'Amélie Oudéa Castéra pour changer un petit peu du paysage médiatique actuel.
Comme tout le monde, mais il fallait bien faire le point sur cette histoire.
Exactement. À un moment donné, l'agenda médiatique est ce qu'il est. On est obligé de le respecter. Amélie Oudéa Castéra, nommée à la tête d'un super ministère regroupant l'éducation et les sports à l'issue du dernier remaniement.
Et tout ça.
Super ministère, et effectivement, faut pas oublier les JO. Donc Amélie Oudéa Castéra, dont on se demande, vu tout ce qui lui tombe sur la figure, combien de temps elle va tenir, si elle réussit à tenir. Et là, c'est toute la question, Nico. Je te laisse faire
petit rappel des faits. Oui, quand même, petit rappel des faits. En ce moment, c'est un peu un jour une histoire. Depuis la première intervention d'AOC, comme on l'appelle dans le petit milieu, en tant que ministre de l'Éducation, on le rappelle, c'était cette sortie assez lunaire sur la scolarisation de ses enfants à Stanislas et le paquet d'heures d'enseignement pas remplacé. Donc c'est pour ça qu'elle avait mis ses enfants finalement dans le privé.
Ça, c'était la première version.
Première version, une saillie déjugée par la VAR journalistique, puisque Libé révèle en fait dans la foulée que en fait finalement seul le fils aîné a été brièvement scolarisé dans le public, et c'était en petite section de maternelle dans l'école publique Littrée dans le 6e arrondissement, avant d'en être retiré après un heureux refus de l'établissement de faire passer prématurément l'enfant en moyenne section. Tout le monde sait que c'est un enjeu majeur à la maternelle.
Surtout à cet âge-là, effectivement, oui, on sautait une classe, hein, voilà. On sait que l'avenir de l'enfant dépend.
Et donc à partir de là, c'est Mediapart qui a pris
le relais. C'est Mediapart qui prend le relais, et on ne sait pas à ce jour combien de dossiers sur la ministre se trouvent en possession de la bande à Edoui Plenel. On va finir par l'apprendre, j'imagine, au gré des jours qui passent. Donc départ en douceur avec l'annonce de l'existence d'un rapport sur l'établissement privé Stanislas qui parle de discours homophobes, de sexisme, d'humiliation. Rapport qui se trouve sur le bureau du ministère, alors tenu par Gabriel Attal depuis août, mais qui est gardé bien au chaud, rue de Grenelle. Oudéa Castéra dit en plus à Mediapart en ignorer l'existence.
Quand elle arrive au ministère, en fait, elle dit « Moi, je ne l'ai pas sur mon bureau. »
Voilà. Et quelques jours plus tard, donc, le site d'information publie évidemment ce rapport en intégralité. Pour ceux qui l'ont lu, qui n'est pas très, très glorieux, effectivement.
Ouais, voilà. Bon, on ne va pas tous les faire, parce que ça a été que le début, finalement, des ennuis. Parce qu'ensuite, ça a été les classes non mixtes, le détournement de Parcoursup, son salaire à la FFT, épinglé par le rapport de la commission d'enquête sur les dysfonctionnements des fédérations. De notre côté, on a essayé de s'intéresser aussi à la personnalité de la ministre, à ses méthodes de travail, en contactant des gens qui ont bossé avec elle ces dernières années. Et ce qui ressort, on peut dire, dans un premier temps, c'est quand même son tempérament de battante. Ça, il faut quand même l'avoir en tête pour ceux qui se disent qu'elle va démissionner rapidement, qu'elle tiendra pas. Attention, c'est pas le genre de la maison.
Oui, voilà, elle est solide sur ses appuis, comme on dit, et surtout, elle n'en est pas à son premier coup de chaud. Même si celui-là, il est vraiment particulièrement musclé et qui concerne un ministère encore plus important, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, on se dit toujours les sports, c'est que les sports, voilà.
Ouais, même si à l'EGO, disons que le ministère de l'Éducation nationale est beaucoup plus médiatisé, il y a plus d'affaires qui ressortent, parce qu'aussi les syndicats sont plus puissants derrière. On sait que ça peut être inflammable, beaucoup plus vite.
D'ailleurs, cette polémique, elle est quasiment exclusivement citée en tant que ministre de l'Éducation.
Exactement.
Parce que, bon, voilà, c'est d'un établissement aussi scolaire dont on parle, donc c'est logique, mais ça montre aussi que c'est ce qu'on souligne majoritairement. Donc, je disais, elle n'en est pas à son premier coup de chaud, même si celui-là, il est particulièrement musclé. Vous vous souvenez-vous, ministère des Sports, donc, elle avait été intronisée 8 jours seulement avant le fiasco de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France fin mai 2022. Donc c'était Real Madrid-Liverpool. Elle n'était pas en fonction au moment des événements, mais elle avait quand même eu le tort de confirmer les accusations mensongères du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à propos des fameux 30 000 à 40 000 supporters de Liverpool venus aux abords du stade avec des faux billets. Donc voilà, obligé de composer avec Darmanin, vrai poids lourd politique, numéro 2 du gouvernement, pas trop le choix que de prendre sa roue, comme on dirait, voilà, dans le vélo. C'est quelque part, elle se prend les critiques logiques, mais est-ce qu'elle avait vraiment d'autres choix que de faire ce qu'elle a fait? C'est une question qu'on peut se poser aussi. C'est un sacré baptême du feu qui lui a été servi pour la suite, en tout cas, nous a assuré un de ses proches.
Ouais, c'est vrai que ça l'a mise tout de suite dans le bain. Et globalement, les personnes contactées quand même ont plutôt salué ses actions au ministère des Sports. Éric Borghini, par exemple, qui est membre du comité exécutif de la Fédération française de foot, la FFF, qui raconte cette anecdote lors d'un déplacement dans un quartier du 13e arrondissement de Marseille, il y a quelques mois. Et lui, il dit, bah voilà, elle n'était pas venue faire le buzz en montrant qu'elle n'avait pas peur de se rendre au pied d'immeubles des quartiers nord, non. Elle était là en toute discrétion, il n'y avait pas de caméra. Elle était là juste pour rendre hommage aux actions sociales du club du FC Malpassé, donc ce qui était le petit club du quartier. Elle a montré qu'elle était accessible et qu'elle connaissait bien ses dossiers. Donc lui était plutôt laudateur.
Ouais, et puis des dossiers, il y en a eu au ministère des Sports, il y en a eu pas mal.
Ouais, il y en a deux gros, donc après, dont on va parler maintenant.
Deux énormes dossiers qui lui ont valu des reproches assez virulents des intéressés, de ses principales victimes, on va dire. Généralement, dans ces cas-là, c'est plutôt une bonne chose. Mais aussi la reconnaissance, donc logiquement, de beaucoup dans le milieu. Je parle évidemment de sa participation dans les évictions de Noël Le Graët et de Bernard Laporte. Les barons des deux plus puissantes fédérations de sport en France ont été poussés vers la sortie à la suite de leurs affaires respectives, des accusations d'agression sexuelle pour Nono et une condamnation en première instance pour corruption, entre autres, pour Nanar.
Et Nono et
Castera a vraiment, vraiment poussé pour ça.
Elle n'a pas hésité à monter au créneau. Un peu sur le modèle de ce qu'avait fait Roxana Maracineanu, donc qui était juste avant elle au ministère, à l'époque avec Didier Gayaguet, l'ancien grand Manitou du patinage. Voilà, malgré les fortes oppositions à l'intérieur des fédés, elle n'a jamais lâché le morceau, et c'est la députée Renaissance Céline Calvez qui nous disait ça. Les fédés vivent en cercle fermé, et je trouve que ce milieu est peut-être le plus violent que j'ai pu connaître, moi, dans la politique en général. Et malgré ça, elle, Amélie Oudéa-Castéra, s'est dit « j'y vais ». Donc c'est une compétitrice, et ça prouve aussi son courage, car la pression a dû être très forte.
C'est fort quand même cette citation sur le fait que ce soit un milieu extrêmement violent, parce que c'est vrai que nous, comme on est dans le sport, on y est, on s'en rend peut-être moins compte, mais c'est pas anodin. En tout cas, l'implication d'Amélie Oudéa-Castéra dans l'éviction là on parle de la FFF, donc de Noël Le Graët, pourrait lui causer quand même quelques tracas.
Dernier rebondissement, ça.
Ouais, si on en croit nos confrères de l'équipe, dernier rebondissement, effectivement. L'équipe a publié un article sur ce qu'a dit Florence Ardouin, l'ancienne directrice générale de la FFF, devant la commission d'enquête parlementaire. Cette audition qui s'était tenue à huis clos en novembre, mais dont le contenu a été rendu public cette semaine. Et Ardouin, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit notamment, je cite, « Sans son intervention, Monsieur Le Graët serait certainement encore président. C'est elle qui a fait en sorte que l'article 40 soit déclenché. » Alors, petite parenthèse,
ouais,
parce que
40,
là, on balance l'article 40 comme ça. C'est quoi l'article 40? On parle là de l'article 40 du Code de la procédure pénale qui permet de saisir la justice si on a connaissance d'un crime ou d'un délit et qui, là, en l'occurrence, avait déclenché la mission d'audit sur la FFF.
Mission d'audit donc qui avait finalement entraîné la mise à l'écart de Noël Le Graët. Et ce qui est un joli compliment, hein, ce qu'elle dit, ouais. Mais aussi un peu un cadeau empoisonné, on se rend compte maintenant, parce que, en fait, une ministre, elle ne peut pas intervenir pour déclencher un article 40. C'est écrit dans le papier de l'équipe, hein. C'est un connaisseur du dossier qui dit c'est juridiquement impossible, selon lui. Et les avocats de Noël Le Graët avaient déjà noté ce problème il y a quelques mois et, comme il est marqué dans le papier, ils ne devraient pas manquer de rebondir sur ces déclarations. Au-delà aussi de ce côté bosseuse, qu'on a pas mal développé là, on s'est aussi intéressé aux méthodes d'Amélie Oudéa-Castéra et des méthodes qui, tu vas nous le dire William, ont pas forcément laissé un bon souvenir à tous ses collaborateurs.
Oui, voilà, parce que là, on dit beaucoup de bien. Amélie Oudéa-Castéra, grosse bosseuse, etc. Mais les méthodes, effectivement, n'ont pas laissé un bon souvenir, à commencer aux 112 qui lui ont pris la porte de manière plus ou moins forcée dans la séquence d'un grand ménage à la FFT. Un grand ménage orchestré en partie par Amélie Oudéa-Castéra, devenue gestionnaire au quotidien de la Fédé après l'élection de Gilles Moreton en 2021, qui lui a plus un rôle de représentation de la Fédération française de tennis. Une ancienne salariée fédérale nous raconter justement ce management main de fer dans un gant de fer, finalement, double dose de fer, de la ministre de l'Éducation, tout en confirmant que l'une de ses grandes missions était de faire justement ce ménage-là à la Fédé. Donc je cite, elle disait « c'est une énorme bosseuse avec un management assez dur qui peut être un peu violent. Elle travaille ses sujets à fond, elle a sa vision des choses et elle n'est pas forcément ouverte à la discussion. Elle peut avoir un discours assez infantilisant et j'ai vu des gens pleurer devant elle lors d'une réunion, je l'ai entendu dire, même des enfants de CP pourraient comprendre le problème ». c'est toujours agréable ce type de remarques cinglantes. Effectivement, là, on est sur le management toxique pour les nuls by Amélie Oudéa Castéra. C'est pas top.
Ouais, moi, certains verront dans son caractère la dureté des personnages ambitieux, hein, parce que elle en fait partie. Évidemment, on le voit, Amélie Oudéa Castéra. Elle est assez sûre d'elle, hein, et donc elle est ambitieuse. Elle n'avait pas hésité à postuler au ministère des Sports dès 2017.
Contrairement à nous, on n'a pas pensé à poser la candidature spontanée.
Ouais, pas le même profil. Peut-être pas assez technocrate. À l'époque, son profil n'avait pas été retenu hein, par le président. Faute de notoriété, notamment. Mais voilà, son plan de carrière était déjà tracé. Et le passage par la Fédé de tennis, puis le ministère. Où est la limite, William ?
Sky is the limit,
comme on dit, avec notre superbe accent. Mais bon, peut-être que the limit, finalement, ce serait peut-être l'école Stanislas.
Eh oui. Habituellement un plafond de verre pour certains de ses élèves, au vu du niveau de l'enseignement, paraît-il. Mais là, là c'est une toute autre problématique.
On verra dans les prochains jours si ça va se calmer ou s'il va y avoir encore d'autres histoires qui vont finalement pousser le président à lui demander sa démission.
Oui, voilà. Bon, après les dernières révélations, c'était sur quoi ? C'était notamment la non-mixité de la classe dans laquelle étaient ses enfants. Bon, voilà, c'est... Faut voir quel chemin vont prendre ces développements. En tout cas, nous, on est un peu dans l'expectative, dans l'incertitude.
Année évidemment très importante, 2024. Les JO arrivent dans très peu de temps. Elle est ministre des Jeux aussi.
Elle est soutenue officiellement par Emmanuel Macron, qu'il avait quand même pas mal défendu hein, lors de cette grande conférence de presse qu'il avait tenue, et par Gabriel Attal aussi.
C'est quand même pas le genre de Macron de faire démissionner ses ministres. On l'a vu avec différentes affaires ces dernières années.
Bah, surtout pas maintenant. Enfin, t'imagines, là, ça serait genre admettre une erreur de casting.
Et on peut penser que ça viendra pas d'Amélie Oudéa Castéra elle-même.
Mais pour les raisons évoquées.
On n'est jamais à l'abri d'une surprise.
On n'est jamais à l'abri d'une surprise et on va bien voir ce qui arrivera. Nous, en attendant, on va débrancher, on va rendre le micro, on va rendre l'antenne, comme on disait à une époque. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast avec nous et on se dit à très bientôt dans un mixte. Ciao.
Salut William, salut tout le monde.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.